VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Abidjan, 13h à Bangui, bienvenue à notre journal. RCA, Paris s'est engagé à ne pas laisser tomber Bangui à la fin de l'opération Sangaris dimanche. C'est ce qu'a déclaré le ministre français des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault en marge d'une réunion internationale à Paris consacrée aux opérations de maintien de la paix en milieu francophone. Le point avec Eddy Sango.
Selon Jean-Marc Ayrault, il était légitime que Sangaris s'arrête car la MINUSCA, la force de l'ONU en Centrafrique, a pris les relais. L'opération française s'achève mais laisse une situation de fragilité en Centrafrique avec nécessité d'un accompagnement international. Les pays sont toujours sous embargo international sur les armes. L'intervention française puis celle de l'ONU ont réduit les tueries mais n'ont pas réussi à stabiliser la situation sécuritaire. La France a envoyé ses soldats en Centrafrique en décembre 2013 pour mettre fin aux tueries. François Bozizé avait été renversé par une rébellion majoritairement musulmane, la Séléka, ce qui avait entraîné une contre-offensive des milices anti-Balaka majoritairement chrétiennes. Sangaris se termine officiellement dimanche. Les ministres français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, y est annoncé.
Le Burundi a formellement notifié aux Nations Unies sa décision de se retirer de la Cour pénale internationale. Information confirmée hier par le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric. Les détails avec Nani Talani.
La lettre officielle notifiant le retrait du Burundi de la CPI a été remise au service du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, par la ministre burundaise de la Justice, Laurentine Kanyana, lors d'une visite à New York. Le retrait de ce pays prend effet un an après la réception de cette lettre. Le Burundi, l'Afrique du Sud et la Gambie ont annoncé leur retrait de la CPI, accusant cette cour de cibler les pays africains. Le Burundi est le deuxième pays à adresser aux Nations Unies une lettre annonçant son retrait de cette institution judiciaire après l'Afrique du Sud. L'ONU n'a pas encore reçu de notification officielle de la Gambie. Elle souhaite que Pretoria et Bujumbura reviennent sur leur décision. La CPI avait lancé en avril une enquête préliminaire sur les accusations de meurtre et autres exactions au Burundi depuis le début de sa crise en avril 2015. Les violences ont fait plus de 500 morts et poussé plus de 270 000 personnes à quitter le pays.
Face à la décision du Burundi, de l'Afrique du Sud et de la Gambie de quitter la CPI, le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon et Sidiki Kaba, président de l'Assemblée des États partis au statut de Rome, fondateur de la Cour pénale internationale, ont exhorté lundi les pays qui critiquent le fonctionnement de la CPI à ne pas s'en retirer, mais plutôt à chercher à résoudre leurs différends par le dialogue avec les autres membres. Pour analyser la situation, John Lennon a joint à Paris Jamal Taleb, avocat et consultant en relations internationales.
La CPI, évidemment, l'a un tout petit peu cherché parce que le sentiment global que les États africains, parce qu'il s'agit d'eux principalement, vous savez, le vrai nom du juge, c'est courage. C'est un peu ce que nous a appris Casamayor. En réalité, l'impression que les Africains ont de la CPI, c'est que le vrai nom de la CPI, c'est justice pour l'Afrique. Et donc, ce sentiment-là, évidemment, crée chez eux une espèce d'injustice et donc de rejet de cette justice. Et bien entendu, c'est un constat d'échec très fort pour la CPI elle-même.
Sidiki Kaba et Ban Ki-moon invitent tous ces pays-là à aller sur la table des négociations et à discuter avec la CPI.
Ils sont un peu dans leur rôle. Donc Sidiki Kaba est dans son rôle en le faisant, Ban Ki-moon aussi. Et donc on ne peut pas attendre moins de leur part. La question de mon point de vue ne se pose pas comme ça. Le sentiment que les Africains ont déjà quand il y avait Ocampo qui était procureur général était qu'ils ne pouvaient enquêter que d'un seul côté. Et puis le sentiment évidemment est encore plus accru depuis que c'est Fatou Bensouda, parce que le sentiment est qu'on était frappé par une main de loin, on est aujourd'hui frappé par une main de près. Alors, c'est dramatique en fait pour la CPI elle-même. Et donc le rôle de Ban Ki-moon et de Sidiki Kaba ne peut être que celui-là. Si j'avais un conseil à leur donner, et bien entendu que je n'en ai pas, le conseil serait plutôt, pardon messieurs, vous êtes dans votre rôle, mais écoutez un peu plus les Africains et prenez un peu en compte leurs sentiments par rapport à cette justice-là. Et donc, il ne suffit pas de leur dire « ne partez pas », donnez-leur des raisons plus sérieuses et plus objectives de rester. Sinon, ils ne resteront pas.
Alors, pourquoi, à votre avis, la CPI ne poursuit pas d'autres ressortissants d'autres pays hors continent ?
La réponse de la procureure générale ou du bureau de la procureure générale est toujours de dire « nous ne disposons pas suffisamment d'éléments ». La réalité, et c'est beaucoup plus important, c'est qu'en fait, ils vont là où c'est plus facile. ils vont là où les enquêtes, d'ailleurs, paraît-il, mais c'est en tout cas les livres de quelqu'un qui était de la maison, M. Brinco, je crois, qui disait, ben, elle va chercher là où les éléments lui sont donnés par les gouvernements en place. Quand vous venez vous occuper de la situation de Jean-Pierre Bemba, vous réglez un problème interne à Kabila. Quand vous venez vous intéresser à la Côte d'Ivoire, un camp plutôt qu'un autre, mais le sentiment général est celui-là. Et donc l'idée, c'est de dire, oui, c'est la justice des vainqueurs, des plus forts et des plus faibles.
Jimal Taleb, avocat et consultant en relations internationales.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest maintenant, en Côte d'Ivoire, la population est appelée aux urnes dimanche dans le cadre d'un référendum pour dire oui ou non à une nouvelle constitution. L'opposition préconise le boycott du scrutin. Le docteur Kwame Christophe, président de l'Association pour l'éducation à la citoyenneté, la promotion et la défense des droits humains, nous situe sur les enjeux de ce référendum.
Aujourd'hui, les enjeux seront premièrement le taux de participation. C'est vraiment le principal enjeu. Mais au-delà même du taux de participation, si cette constitution passe, qu'elle s'applique, je crois que le problème de 2000 peut se répéter. C'est-à-dire qu'en 2000, une partie de la population ivoirienne a trouvé que la constitution était faite pour ou contre elle. Voilà. Cette fois-ci, une grande partie dit « nous n'avons même pas été consultés, nous n'avons pas vu, donc nous n'avons pas voté ». Et la majorité de l'opposition dit « nous faisons un boycott et nous n'irons pas ».
Le docteur Kwame Christophe, président de l'Association pour l'éducation à la citoyenneté, la promotion et la défense des droits humains en Côte d'Ivoire. Au Burkina Faso, dialogue de sourds entre les autorités et les agents du secteur de l'information en grève. Au piquet de grève, les forces de l'ordre ont répondu par la répression devant les locaux de la télévision nationale burkinabé. Une action qui alourdit encore plus le climat des négociations. Les grévistes comptent durcir le ton si des mesures ne sont pas prises. On écoute Bassolma Bazier, président de l'unité d'action syndicale.
Nous avons échangé avec le ministre de la fonction publique qui est rentré en contact avec son collègue de la communication parce que nous lui avons dit que nous sommes passés au piquet de grève et qui se déroulait conformément au respect des normes et même les conventions internationales ratifiées. Mais ce qui était en train d'être servi aux travailleurs, c'est inacceptable. De ce point de vue, nous allons rencontrer M. le ministre parce que nous lui avons dit au téléphone en attendant que ce qui se passe est la façon dont gère le piquet de grève et le déploiement des forces de l'ordre devant une institution qui devait en principe être le premier écran du pays à l'international, ce n'est même pas du tout bien pour l'image du pays. S'il faut qu'on trimballe nos bagarres en dehors de nos frontières, nous allons le faire. Mais s'ils entendent raison garder, on va aussi régler ça comme il se doit dans le cadre du respect des textes.
Bassolma Bazier, président de l'unité d'action syndicale au Burkina Faso. Égypte, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a promis aujourd'hui le réexamen d'une loi controversée encadrant le droit à manifester qui a conduit à l'emprisonnement de centaines de personnes et suscité des critiques internationales. La loi controversée régissant les manifestations a été adoptée en 2013, quelques mois après que M. Sisi, alors chef de l'armée, eut renversé son prédécesseur démocratiquement élu, le président islamiste Mohamed Morsi. Présidentielle américaine 2016, maintenant la première dame des États-Unis, Michelle Obama, a effectué une première apparition conjointe hier avec la candidate démocrate Hillary Clinton. Côté républicain, Donald Trump était dans l'Ohio. Jacques Aristide.
Plus populaire que son mari Barack Obama, la première dame a surpris plus d'un observateur. En s'impliquant de façon volontaire pour soutenir l'ex-secrétaire d'État, Michelle Obama est donc montée sur scène avec Hillary Clinton en Caroline du Nord, qui fait partie des États susceptibles de tomber dans l'escarcelle démocrate ou républicaine. Barack Obama avait emporté la Caroline du Nord en 2008, mais y avait essuyé une défaite en 2012. Donald Trump, de son côté, a sillonné l'Ohio, un autre État décisif où il a tenu trois rassemblements. Auparavant, dans une série de tweets, il avait dénoncé les liaisons dangereuses et malsaines entre le travail passé de Mme Clinton à la tête de la diplomatie américaine et le financement des missions caritatives de la fondation portant le nom de son mari, Bill Clinton. Le milliardaire républicain s'est dit prêt à sortir de sa poche des millions de dollars pour freiner sa rivale dans la dernière ligne droite avant le 8 novembre.
Et pour terminer, le conflit en Syrie, les rebelles syriens ont commencé aujourd'hui à Alep une offensive d'envergure pour briser le siège imposé par le régime de Bachar al-Assad au quartier qu'il contrôle. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.